Chers amis de Radio Courtoisie, nous sommes heureux d'être ensemble ce soir dans une actualité qui pourtant est chargée et pénible. Cette attaque d'un pays souverain par les États-Unis coalisés avec Israël, ça pose quand même de vraies questions. Et ça me paraissait tellement grave, tellement lourd, que je n'ai pas voulu porter le fardeau tout seul. Et que je me suis souvenu qu'on avait eu une longue collaboration à Radio Courtoisie, Paul-Marie Couteau.
Oui, mon père.
Et que vous étiez l'homme de la situation pour parler de ce genre de sujet.
On est deux. Il y a François Martin et moi pour parler de ce sujet. Vous avez les voix les plus autorisées.
Alors, François Martin est géopolitologue, comme vous l'êtes, comme le sont tous ceux qui s'intéressent un peu à autre chose qu'au seuil de leur porte. Et vous n'êtes pas forcément d'accord sur le fond.
Bon, on est d'accord à 99%. Il y a toujours le dernier pourcent qui nous titille. Mais François Martin est beaucoup plus géopolitologue que moi. J'étais un peu diplomate, mais François est un spécialiste de la géopolitique. Il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur ce sujet.
Vous avez été diplomate et vous avez été, je le rappelais à mes amis qui sont là, le secrétaire de Boutros Ghali.
Ah, la plume. Enfin, c'est pareil.
Le secrétaire, oui. La plume.
Il avait beaucoup de secrétaires, vous savez. Bien.
Mais il avait une plume. Voilà. Alors.
Le diplomate a commencé par l'Égypte. C'est ce qui m'a initié, qui m'a plongé très tôt, dans les années 80, dans le chaudron du Proche-Orient.
Est-ce qu'on entend déjà François?
Oui, je vous entends parfaitement.
Je chausse.
Ah, vous m'entendez parfaitement.
Oui.
Bonsoir, mon cher François.
Bonsoir, cher ami. Je suis très heureux de te retrouver.
Mais il est temps.
Voilà.
Sous les auspices de la baie de Tannouard, on peut mieux trouver.
En tout cas, je suis ravi de vous réunir. Et je pense qu'il va y avoir de l'ambiance ce soir et que c'est important que vous puissiez. Vous dire les choses le plus exactement possible, c'est très important pour nos auditeurs. Parce qu'il faut quand même reconnaître que moi, je suis réduit à la télévision continue. Et ce qui passe sur les chaînes de télévision continue est d'une banalité écœurante, d'un politiquement correct sinistre. Et finalement, n'apprend rien à celui qui cherche à comprendre.
Alors, non seulement ça ne lui apprend rien, mais ça va le tromper complètement, parce que si les événements, du coup, ne suivent pas ce qui est, semble-t-il, assuré par les médias de grand chemin, à ce moment-là, on cherche des circonvolutions pour expliquer que les choses ne sont pas du tout produites comme ça. Donc, il faut essayer de donner des éléments de vérité pour que ensuite les prédictions, pour tenter qu'on puisse en faire, essayent d'être justes.
Voilà, Donald Trump a besoin de résultats rapides.
Ben, c'est ce que je pense, et je pense que c'est ce que pense aussi Paul-Marie.
Dans son dernier grand discours, là, il évoquait. Ce qu'ils ont fait en Amérique, au Venezuela, pour lui, c'est l'idéal. En une nuit, on fait prisonnier le chef. En fait, c'est l'esprit du Far West, quoi.
Un peu, oui.
C'est le shérif.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et ce qui étonne, vous savez, j'ai eu, après l'intervention que j'ai faite dimanche et celle que j'ai faite lundi à la matinale de Radio Courtoisie, mercredi, j'ai eu beaucoup d'appels d'amis et de vrais spécialistes, et ils sont tous à peu près d'accord sur les fondamentaux de cette affaire que je vais rappeler rapidement si vous me le permettez. Le premier, c'est que en fait, cette affaire est à la fois très bien préparée et totalement improvisée. Elle est préparée sur le plan de la logistique avec les bateaux, etc., etc. Et elle est improvisée par rapport au but de guerre, parce que en fait, Trump a suivi son instinct probablement.
Il a suivi son instinct ou il a suivi son ami?
Ben, il a suivi les deux en fait. Mais il a plutôt suivi son ami, effectivement, que son instinct dans cette affaire. Et tous les analystes disent que ça ne colle absolument pas, c'est ça qui les étonne, ça ne colle absolument pas avec la stratégie telle qu'elle a été appliquée par Trump jusqu'à présent et que vous avez rappelé justement, qui consiste à faire beaucoup de cinéma et à agir peu pour ne pas mécontenter les MAGA, qui sont ceux dont il aura besoin au moment de son élection mi-mandat.
Mais on est tous un peu des MAGA, non ?
Comment ?
Je sens comme un petit sarcasme dans votre voix. On est tous un peu des MAGA.
Ah ben pas moi. Hein.
On est tous des MAGA de son pays.
Les États-Unis redeviennent un empereur.
On n'est pas des MAGA aux États-Unis, mais on est tous des MAGA dans son pays.
Si MAGA veut dire Make America Great Again, on n'est pas des MAGA.
Non.
Vous voulez que l'Amérique redevienne impériale, mon père ?
Faire la France grande à nouveau, c'est ça le.
Ah oui.
C'est ça le MAGA Made in France.
Oui, si c'est Make France Great Again, et je mettrai une pièce dans le cochon.
Je vais le faire pour toi, François. Je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Il est devant moi, le cochon.
Mais bon, c'est pour en faire. Si vous voulez, ça ne colle pas avec ce que Trump avait normalement, avec ce qu'il a fait jusqu'à présent, au Venezuela en particulier. Là, il a vraiment franchi une ligne rouge extrêmement grave. Marjorie Taylor Greene est furieuse. Les vrais républicains, ce représentant de sa base populaire, sont furieux. Et tout le monde.
C'est parce que je me sens un peu furieux, moi, j'avoue, que j'ai dit on est tous des MAGA. C'est dans ce sens précis. Je pense quand on est attaché à son pays, on trouve invraisemblable que la territorialité de l'Iran ne représente rien pour M. Trump.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, pour rappeler les fondamentaux, comme je vous ai dit rapidement, ce que je pense, moi, et c'est confirmé par un certain nombre de sources, en particulier un grand journaliste qui s'appelle Seymour Hersh, qui est celui qui avait dévoilé le poteau rose concernant l'explosion des gazoducs Nord Stream. Il semble bien que les services de Mossad aient trompé Trump. C'est-à-dire qu'il lui ait vendu deux choses. La première, c'est qu'il avait pratiquement plus de missiles chez les Iraniens, qu'il les avait consommés presque tous au moment de la guerre des 12 jours. Et le deuxième, c'est qu'ils avaient des preuves comme quoi le gouvernement serait prêt à tomber. Il suffisait qu'on pousse un peu avec le gouvernement et qu'on tue le chef.
D'où le meurtre d'Ali Khamenei.
Les choses se sont avérées fausses.
Il avait dans les bras sa petite fille de 14 mois.
Les deux choses se sont avérées fausses parce que, ce qu'ont dit les Iraniens, c'est que le guide suprême avait pratiquement organisé son suicide, je dirais d'une certaine façon, ce qui se comprend dans la tradition chiite, puisqu'il a refusé de quitter son bureau alors qu'il savait qu'il était en danger. D'autre part, on sait, et ça je le sais de sources sûres, par des gens qui étaient en Iran très récemment, qu'il est, au contraire de ce qu'on dit, excessivement aimé par son peuple. Donc c'est totalement raté. Et puis de toute façon, je rappelle que ce pays a subi une atroce guerre contre l'Irak qui a été abondamment armés, même avec du gaz, etc., par l'Occident, et qu'ils ont survécu à ça avec 1 million de morts, et que c'est un peu mutatis mutandis, la même chose que ce qui s'est passé avec la grande guerre patriotique des Soviétiques, des Russes, et qu'un pays qui a subi une telle épreuve est extrêmement solide et extrêmement nationaliste, et on ne les fait pas...
Difficile d'envisager le régime change. Ça va être difficile d'envisager le régime change pour beaucoup d'Iraniens.
Oui, totalement difficile. Donc Trump s'est retrouvé, si je synthétise la chose, puis après je vous laisse la parole, les Israéliens ont dit « mets la main là-dedans, tu vas voir, c'est dans le trou de l'arbre, tu verras, il y a du miel. Donc, il a cru mettre la main dans un pot de miel. Et en fait, c'est pas un pot de miel, c'est un nid de guêpe. Et il se trouve aujourd'hui sans justification. Se trouve qu'il n'a, du coup, dans la précipitation, il n'a pas demandé l'accord au Congrès. Et il n'a même pas essayé de justifier son action à l'ONU avec une petite fiole de talc. C'est-à-dire, il a fait une opération du type de celle qui avait été faite en Irak, mais sans aucune justification. Et le Congrès s'est dépêché de convoquer le Pentagone, qui a confirmé qu'il n'y avait aucune menace immédiate qui menaçait les États-Unis. Donc aujourd'hui, il est dans une situation extrêmement compliquée. Je regardais aujourd'hui les cours du pétrole qui sont en train de monter, qui étaient aux environs de $60, qui maintenant sont pas loin des $90, au risque de créer une récession mondiale dont évidemment tout le monde va accuser Trump. Donc si en plus les Iraniens lui coulent un bateau, il est bon pour perdre son mandat et perdre les élections. Donc je pense, c'est ma conclusion, qu'en fait, il va taper, d'autant qu'il est prouvé qu'il a, lui, il n'a presque plus de munitions. Et puis après, il va partir en disant « victoire, fuyons », en disant « on leur a bien cassé la figure, ils ne vont plus nous embêter. Nous avons supprimé la menace que représentait ce pays sur tous les plans pendant des années. Donc, merci, bravo, vive l'Amérique, merci aux soldats et on rentre chez nous. » Voilà un peu le scénario que je pense relativement probable. Alors, je peux me tromper, mais je ne vois pas comment, de toute façon, Trump continuerait à faire la guerre si, comme le disent les rapports que j'ai pu lire, il est pratiquement au bout de ses missiles offensifs et défensifs d'ici 2-3 jours. Bien qu'ils disent que ça va durer des mois, il a pas les moyens.
François, je voudrais te poser trois questions. Enfin, les poser à tout le monde et à vous, monsieur l'abbé. La première question, est-ce que ça ne dépeint pas, je vais droit au but, parce que on l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes d'accord sur tout, presque tout, François Martin et moi, nous avons lancé le Nouveau Conservateur ensemble, il est l'un des piliers en tous les cas. Nous avons créé un club aussi, auquel vous vint, mon père, un soir, le club Eleutheria, dont François s'occupe très bien, qui réunit périodiquement les bons esprits, il y en a beaucoup quand même, de ce pays. Mais François a un optimisme naturel qu'il a porté, et une bonté naturelle qu'il a porté à penser que Trump était un personnage meilleur qu'il n'est en réalité. Et j'étais assez vacciné contre cet optimisme-là, et là nous avons divergé. François, tu es d'ailleurs en train de nous dire qu'une décision de cette importance, prise par le président des États-Unis, la plus grande puissance militaire en tous les cas de la Terre, a été guidée par le Mossad. C'est le Mossad qui arrive. Ben, c'est pas tout à fait à son honneur quand même pour un président des États-Unis.
C'est pas à son honneur du tout, oui.
C'est pour ça que je voyais pas le schéma que vous posez, l'un défendant Trump ou l'autre et l'autre l'attaquant. Parce que ce que j'ai entendu du défenseur de Trump est plutôt une attaque.
Oui, non mais François est un esprit sérieux. C'est-à-dire quand une chose ne va pas nécessairement dans une intuition qu'il a eue, il l'a dit quand même. Enfin, je parle pour ta paroisse, mon cher François.
Non mais c'est surtout que l'événement...
Et en plus, alors je continue François, pardon. Il y a aussi la légèreté d'un personnage. Là, je voudrais y revenir, mais peut-être un petit peu plus tard. Il y a une question morale, quand même, qui engage une guerre meurtrière, déjà très meurtrière, et peut-être d'ailleurs pour certains de ses ressortissants, mais enfin pour l'ensemble de la région. Et ça inclut par exemple le Liban. Il sait le bellicisme évident et immodéré, déchaîné de M. Netanyahou, il ne le retient pas, et au contraire, il le suit, ce renseignement de ses services secrets, et il engage une guerre. Alors, pour un chrétien, c'est affreux, sans savoir, François l'a dit lui-même, à quoi elle va mener. C'est-à-dire qu'on fait des dégâts humains terribles, et à long terme d'ailleurs. le dégât est moral, c'est-à-dire que là, maintenant, on s'installe dans un monde où les habitants de la Terre savent partout que la loi du plus fort est autorisée. L'exemple est donné. C'est peut-être le pire. Le pire, c'est la morale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde a perdu la tête, mais que tout le monde maintenant s'autorise à faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, à condition qu'il soit en situation de le faire et qu'il ait la force pour le faire. Ça, ça fait des dégâts épouvantables.
Ce bateau iranien qui a été atteint à 2000 km de sa base, c'est quand même...
Mais tout est sinistre.
N'importe quoi. Enfin,
mais tout est sinistre et tout n'importe quoi. Et ce n'est pas du tout à l'honneur de ce personnage, dont je répète...
C'est plus que n'importe quoi, père. C'est un assassinat, en fait.
Oui,
si vous regardez comment ça s'est passé, c'est un bateau qui n'était pas en situation de guerre, mais qui était parti en Inde pour faire une démonstration de relations publiques avec défilé dans les rues, de l'équipage en grande tenue, etc., etc. Donc c'était une opération de relations publiques et il a été tiré par un sous-marin, certainement sans aucune sommation, qui a assassiné le bateau et les 150 membres d'équipage devant la ville de Gol, où je suis allé d'ailleurs, que je connais bien parce que j'y étais pour mon voyage de noces, figurez-vous, en face du Sri Lanka, et qui a coulé ce bateau dans des conditions épouvantables. Quoi.
J'ai encore deux autres questions, pardon, François.
On est dans l'horreur, excusez-moi, j'interromps.
J'ai encore deux autres questions. On est en effet dans l'horreur et dans la moralité la plus complète. Ce n'est pas à l'honneur ni des États-Unis, enfin ni de leur président, ni des États-Unis, ni de leur président, et de ceux qui le suivent en France comme, à peu près aveuglément, comme le Front National, par exemple. Ça, c'est vraiment...
On peut être très sceptique sur le droit international, mais enfin la morale.
Non, on n'a pas à être sceptique. On doit lutter pour le droit international, qui est l'héritier du droit de la guerre que notre Sainte Mère l'Église a édicté au fil des siècles et qui est devenu le droit international, mais qui est d'une même inspiration. On ne doit pas être sceptique, à mon avis. Ça fait partie de la foi, à mon avis. Le droit international, c'est
ça fait partie de la foi, on peut comprendre qu'on soit...
La capacité des hommes à régler leurs conflits par le logos, comme disait Benoît XVI, et au moins pacifiquement. Ça, c'est une infraction qui est assez récurrente chez Trump, qui, par exemple, alors on a beaucoup dit, François l'a dit, mais ne le dit plus, je pense que les États-Unis se replient sur l'Amérique pour la coloniser du Groenland jusqu'à la Terre de Feu. Mais pourquoi alors, s'il s'agit de renouveler la doctrine Monroe, pourquoi avoir bombardé plusieurs villages au nord du Nigeria aux alentours de Noël ? Ça n'a rien à voir avec la doctrine Monroe. Pourquoi avoir dit qu'il réglerait en 48 heures le conflit en Ukraine, alors qu'il continue, enfin son administration en tous les cas, mais il ne doit pas l'ignorer quand même, on ne sait plus avec ce bonhomme, à livrer encore des armes et des renseignements surtout. À l'Ukraine, même si l'intensité a baissé, il la garde un peu sous le boisseau. Enfin, on a l'impression d'un personnage totalement tyrannique. Et deuxième question, François a peut-être des renseignements sur cette précipitation. Là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le scénario était établi, mais ne devait pas être enclenché si vite, d'autant que les négociations qui avaient lieu dans le sultanat d'Oman n'étaient pas si mal engagées avec l'Iran. Et que l'Iran l'a répété, mais je crois que c'était assez sincère, était favorable à un traitement à peu près équilibré. D'ailleurs, c'était pour eux une manière de déjouer le bellicisme d'Israël. C'est assez grinçant de savoir que l'ayatollah Khamenei, qui a été assassiné samedi dernier, je ne savais pas qu'il avait... sa petite fille entre ses mains, mais était un personnage qui était plutôt réticent à l'idée que l'Iran disposât de l'arme atomique. Et c'est celui-ci dont on vante le scalp.
C'était plus que réticent, Paul-Marie. Il était vent debout.
C'est ça, bravo.
Il avait édicté une fatwa interdisant absolument...
Ah bon, à ce point
Oui, absolument. C'était le plus grand défenseur d'une position de l'Iran sans armement atomique. Donc, en fait, on vient de tuer l'homme qui bloquait véritablement la stratégie iranienne vers l'art atomique.
Et qui avait le secret de la paix, en fait.
C'est la folie d'Israël, ça. C'est la folie d'Israël. Mais peut-être qu'Israël, ça l'arrange que les modérés des pays qu'il veut détruire soient eux-mêmes détruits. Parce qu'Israël veut la guerre partout. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de poser une question là, je constate simplement que depuis que Israël s'est installé comme une puissance, et une puissance nucléaire hélas, au bon soin de la France, qui s'est d'ailleurs armée en dépit de toutes les règles du droit international et qui refuse toute inspection comme, alors que l'Iran l'accepte, Israël a réussi à détruire à peu près tous les pays qui l'entourent. Ça a commencé par le Liban dans les années 80, on est droit ensuite à l'Irak, tout le monde le sait, puis la Libye, puis la Syrie, maintenant l'Iran. Il ne fait pas bon être voisin d'Israël, ils détruisent tout ce qui les entoure. Et pour eux, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, je pense, pour les États-Unis. Pour eux, le but de guerre est clair, c'est le chaos. C'est le chaos autour d'eux.
Bien sûr.
Bon.
Oui. Voilà,
quant au but de guerre de Trump, eh ben, il est inconnu. Et il faut conclure qu'il s'est rallié au but de guerre, c'est-à-dire le chaos d'Israël, comme il s'est rallié ou comme il a suivi les renseignements du Mossad. C'est accablant pour le personnage. Et puis j'ajoute une dernière chose, c'est la troisième chose que je voulais dire, François. Excusez-nous, on se tutoie, ce qui n'était pas toujours très, très convenable quand on est au micro, mais comment cacher notre proximité? D'ailleurs, quand je ne suis pas d'accord avec François, je commence à réfléchir pour me demander si ce n'est pas lui qui a raison. Donc, vous voyez, il a une grande influence sur moi. Mais là, j'ai maintenu quand même ma critique très sévère pour le personnage de Trump, sur lequel nous n'avons pas le même regard. Pour en revenir à l'Iran, l'Iran a en effet subi, comme tu l'as rappelé, François, une guerre terrible contre l'Irak, et on a armé les deux côtés d'ailleurs, c'est effrayant. Mais il y a eu pire, et il y a pire, qui a couché.
Mais nous, Français, on était plutôt pour l'Irak, non?
Oui, bien sûr, mais les États-Unis ont armé à ce moment-là l'Iran. Bon. C'est le cynisme affreux. Et je répète, je voudrais dire avant la fin de l'émission mon mot sur ce cynisme-là, parce qu'il nous entraîne tous dans l'ensauvagement du monde. Vous savez, ce qui est arrivé à Quentin, les papiers Epstein, les trois quarts des événements les plus graves de l'actualité ne disent qu'une chose, c'est l'ensauvagement du monde. Et ça, c'est une question morale sur laquelle j'aimerais venir plus tard. Mais à propos de l'Iran, après cette guerre avec l'Irak, il y a eu une infiltration massive d'agents israéliens faits pour espionner, déstabiliser, exciter les oppositions internes, de sorte qu'évidemment le régime iranien, qui en plus était en butte à des embargos, c'est comme la Russie, sans cesse renouvelés, a été obligé de se raidire. Tandis que les embargos appauvrissaient la population et que la population était portée, par conséquent, ne serait-ce que pour ses approvisionnements les plus élémentaires, à se révolter. C'est-à-dire que la politique d'Israël a consisté à systématiquement déstabiliser ce pays, et après on a beau jeu de dire « Ah ben vous voyez, c'est une dictature, comme on entend sur toutes les chaînes de radio, c'est une dictature parce qu'on l'a fabriquée. »
Depuis 47 ans.
47 ans d'embargo, et après on s'étonne que la population manifeste, et après on s'étonne que le régime de Téhéran soit obligé de la réprimer. C'est la fabrication du chaos, la politique d'Israël. Ouais, on laisse faire, parce qu'évidemment, si on dit ce que je dis, on est considéré comme une sorte de nazillon, pour reprendre le mot habituel.
Mais moi, je pense que si on consulte les chrétiens d'Orient du Liban, c'est ce message qu'on entend souvent.
Ce que je dis.
Israël veut le chaos.
Oui, ce que je dis, oui, ben, il est évident, puisqu'Israël a même bombardé des églises, ce qui n'empêche pas les bons catholiques de soutenir Israël. Mais enfin, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Ce qui est invraisemblable, c'est l'absence de réaction des Français, de la classe politique française, et a fortiori de l'opposition. S'il y a une opposition à Macron, en fait, il n'y en a pas. C'est principalement autour du Front National.
Est-ce que l'un de vous deux peut nous parler un peu du Liban ? Et du rôle de la France, que la France pourrait jouer au Liban.
Non, ben, il n'y en a plus.
Je
laisse François répondre, mais il n'y en a plus. Le président Macron est allé deux fois au Liban pour faire des rodomontades. On n'a rien entre les mains pour le Liban.
Oui, mais il s'est tellement trompé partout, le président Macron, que...
Oui, mais on n'a plus rien.
À la fin de son mandat, il a de temps en temps des éclairs de bon sens.
Mais on peut avoir du bon sens. Je ne sais pas pourquoi vous essayez d'absoudre ce personnage. On peut avoir du bon sens ou des lumières.
Il faut absoudre la France, d'une
façon. Oui, mais enfin, mon père, il n'y a aucun moyen. La France n'a absolument aucun moyen. Il peut avoir des éclairs de bon sens. La France n'a absolument aucun moyen d'intervenir au Liban. Ou alors il faut utiliser.
Je ne partage pas absolument ça, pas concernant le Liban,
ou alors,
d'une façon générale.
Il faut utiliser le porte-avions pour taper sur l'envahisseur israélien, mais il ne le fera jamais, c'est une blague. Parce que Israël a envahi le sud Liban.
Est-ce que je peux intervenir ?
François, je vous en prie.
Simplement pour dire une chose, c'est que l'initiative d'Emmanuel Macron en faveur de la Palestine à l'ONU a quand même été une pierre à l'édifice qui a été valable et qui a eu une force symbolique réelle, puisque un certain nombre de pays l'ont critiqué violemment, dont les États-Unis, dont Israël, etc. etc. S'il n'y avait eu aucun impact, personne n'aurait rien dit. Donc, je ne partage pas l'idée que Macron a été totalement, je dirais, nul dans cette affaire, mais je dirais qu'il a été nul, on va dire, à 95%.
Mais François, que peut-il faire pour aider le Liban, ou la libanité du Liban ?
Il faudrait qu'il affirme la place de la France.
Il peut empêcher Israël de prendre les terres.
Et avec quel moyen, mon père ? Ça suppose d'entrer en guerre avec Israël ? Vous rêvez en couleur ?
Non, mais ça suppose une politique internationale qui tienne debout.
Non, mais en l'occurrence, qu'est-ce que vous voulez faire pour protéger le Liban envahi par Israël ? Bombardé, envahi par Israël ?
Empêcher que ça devienne
quand Hitler
lance
les troupes allemandes contre la France, c'est pas en disant je vais faire une grande politique internationale pour arrêter Hitler. On n'arrête pas Hitler. À partir du moment où il est lancé, on ne peut l'arrêter que par une armée.
La réduction à Hitlerum, moi, me laisse sceptique.
Non, mais je veux dire n'importe quel envahisseur. Je dis Hitler, je peux dire n'importe qui. On ne peut pas arrêter un envahisseur par une politique internationale sortie du chapeau tout à coup. On peut le faire par la guerre.
Paul-Marie, je ne partage pas tout à fait cet avis. Je pense qu'on n'est pas obligé d'intervenir militairement contre Israël pour forcer Israël.
On
ne
le fera jamais, de toute façon.
Voilà, si je peux dire mon mot, si vous me le permettez, je pense qu'on a un rôle à jouer qui est à la fois diplomatique, l'isolement d'un pays, diplomatiquement, juridiquement, économiquement, c'est quelque chose qui peut lui faire beaucoup de mal, on n'a pas besoin d'attaquer militairement un pays pour lui faire beaucoup de mal et pour l'obliger à réfléchir. Nous avons la possibilité de faire valoir notre voix et d'organiser l'isolement d'Israël, ne serait-ce que sur le plan économique, et ça le gêne beaucoup, mais ça, on n'ose même pas le faire, on ne l'a même pas condamné. On a dit qu'on reconnaissait la Palestine, mais personne n'a condamné Israël pour ça. C'est quand même la base, je veux dire. Avant même de dire qu'on envoie des troupes, la condamnation et les sanctions, Dieu sait si on a utilisé les sanctions contre tout un tas de pays, personne n'a sanctionné Israël. C'est incompréhensible, ça.
Mais condamner Netanyahou, François, n'aura aucun effet sur M. Netanyahou. Mais cela étant, là où je peux te rejoindre...
Ça peut le ralentir.
Là, non, ce sont des faits, mais en effet, je vous rejoins sur un point. Prenons cette phrase que j'ai commentée hier lors de mon émission du mercredi après-midi, je la répète, au risque de passer pour un répète-jaco. C'est une phrase de Sénèque qui a été versée dans le christianisme. Je pense que vous n'allez pas me contredire, mon père, en tous les cas. Cette phrase est belle, c'est une plus mauvaise chose de faire le mal que de le subir. Donc, d'une certaine façon, il y a une justice sur Terre, in fine, à terme. Je pense que les États-Unis se détruisent eux-mêmes en se déchaînant, comme ils le font. Et je pense qu'Israël se détruit elle-même, sans même que nous ayons à intervenir. J'en veux pour preuve un chiffre très étonnant. 27%, et c'est mené par une université à Tel Aviv. Une étude démographique très sérieuse, c'est une université qui abrite le principal institut de sondage, l'institut d'opinion d'Israël. 27% des Israéliens souhaitent quitter Israël. Et 52% des moins
ça,
de 30 ans.
Ça, c'est énorme.
Et 52% des moins de 30 ans, c'est encore pire. 52% des moins de 30 ans veulent quitter Israël.
Oui, et ça devient un pays militaire, quoi.
Et oui. Et puis un pays qui quand même est entouré
on
de gens qui
rappelle
les ripostent.
Réservistes à la moindre...
Ben oui. Et vous savez que 9,5 millions d'habitants, Israël, à peu près 1,5 million sont déjà partis, plus d'un million en tous les cas, depuis le bombardement de Gaza, par peur ou par désapprobation, et que si Israël se vide de 25% de gens qui veulent partir et de 50% de sa jeunesse, c'est un pays qui se condamne lui-même, alors qu'il est entouré des pays qu'il a pas cessé de détruire et qui vont
mais
se relancer.
Mais alors, il y a une vraie désapprobation de ce qui se passe en Israël.
Je crois que c'est trop dictatorial, parce que ça passe pour une démocratie. En fait, c'est une théocratie dictatoriale, comme l'est devenu l'Iran. Hein. Bon. Donc, je pense que c'est pas, ce sont des faits qui
c'est
vont...
C'est théocratie contre théocratie, pour vous.
Ben bon, c'est pour ça on que parle bien de l'État juif, donc il s'agit bien d'une théocratie. Bon, cette théocratie se tue elle-même, parce que je pense qu'Israël a un déficit démographique grave à la base, qui va s'accentuer dans les prochaines années par la fuite des Israéliens. Et le retour des Israéliens en Europe, aux États-Unis. Donc, il y a une justice, c'est ce que je disais, et c'est peut-être ça qui arrêtera Israël, mais ce n'est pas la France. Enfin, telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain, parce que je suis sidéré d'avoir entendu le petit Bardella, une tête, un écervelé total, à mon avis, qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui n'en fera jamais rien. J'espère qu'il ne nuira pas davantage à la France. Dire que s'il est élu président de la République, à Dieu ne plaise, son premier voyage sera pour Israël. C'est dingue. C'est dingue. On est tellement alignés, majorité et opposition, sur Israël, qu'il est même inimaginable qu'on puisse aider le Liban en s'opposant front à front à Israël.
Oui, mais ça, c'est l'ancien d'extrême droite qui parle et qui cherche à se blanchir à l'infini.
L'extrême droite n'a pas toujours été si bête.
Non, il cherche à se blanchir à l'infini.
Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais dit une telle bêtise. Et s'il avait été à ma place, il aurait utilisé un autre mot que le mot de bêtise. Je l'ai connu, Jean-Marie Le Pen. Il avait de la jugeote, quand même.
Les écrits de Jean-Marie Le Pen ressortent actuellement par rapport à l'Iran, qui est un pays pour lequel il avait un immense respect.
Très bien,
pour sa culture, pour son histoire très ancienne, un immense respect pour l'Iran.
L'Iran est un grand pays religieux, et j'aimerais aussi vous entendre sur ce point. On flirte avec l'apocalypse, là. Dans ces régions.
Je ne crois pas à l'apocalypse, elle est pour un peu plus tard. L'apocalypse viendra.
Moi, je ne crois pas au Mahdi, mais je crois que ça peut animer.
L'apocalypse, elle viendra quand il y aura des guerres privées, quand la démoralisation, dans tous les sens du terme, la démoralisation du monde et le refus de toute morale sera tel qu'on laissera se multiplier des armées privées qui s'achèteront des drones, qui fixeront des armes nucléaires sur ces drones. Et alors là, à ce moment-là, on sera dans l'apocalypse au sens vulgaire du terme. Oui, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on arrive, comme dans l'affaire d'Ukraine, je pensais qu'on n'irait pas jusqu'à l'extrême. Mais ce qui est grave, c'est qu'on descend sans cesse des marches vers la démoralisation universelle. Trump, pardon François, a le visage de cette démoralisation, de celui qui tape aussi longtemps qu'il le veut, là où il le veut, parce qu'il est le plus fort. Pour moi, c'est la barbarie à visage inhumain, Trump. Et je suis sidéré qu'une partie de la droite française, Dieu sait que c'est la plus bête du monde, la preuve en est faite chaque jour depuis 30 ou 50 ou 60 ans, depuis la mort du général de Gaulle, soit à quatre pattes, enfin on a vu des candidats à l'élection présidentielle, j'ai même pas la peine de citer son nom, se précipiter au sacre du prince, de l'empereur, en janvier 2025. C'était indécent.
Sacre de l'empereur.
Je parle de Zemmour, hein, oui, de Zemmour et de Sarah Gnafou qui sont allés ventre à terre. Saluer le nouvel empereur, sans savoir qui il était, et qui est l'archétype du barbare. À l'image d'ailleurs de son peuple, on dit qu'il est aimé de son peuple, mais parce que son peuple est barbare, les Américains sont sauvages par nature.
Et pour l'instant, c'est pas
et ils sont déchristianisés, ils sont déchristianisés à un point inouï, les États-Unis, parce que vous savez, comme dit Jean-François Colosimo, le seul dieu des États-Unis, c'est les États-Unis.
Oui, ou pire, c'est l'argent, peut-être.
Dieu est américain de Jean-François Colosimo, c'est un livre qui dit tout sur la profondeur de la déchristianisation de la Grande-Bretagne, c'est valable pour tout le monde anglo-saxon, et des États-Unis. On peut y ajouter d'ailleurs une autre partie du monde anglo-saxon, c'est-à-dire les Saxons et les évêques allemands supprimant la croix. Alors là, on est arrivé très loin dans la suppression de toute référence chrétienne dans les civilisations dites protestantes.
Mais on a eu la mort récente de Charlie Kirk. Je ne sais pas comment vous prononcez,
Kirk.
Qui est quand même qui invite à considérer d'autres aspects du trumpisme.
Oui,
je dis du trumpisme.
C'est vrai.
Ah, de Trump, nul ne sonde les reins et les cœurs, et les reins et les cœurs d'un président.
Je dis que les Américains sont des sauvages. Il y a un type qui a échappé, il y en a certainement beaucoup. J'ai vécu aux États-Unis, il y a des gens bien, il y a des chic types, il y a de bonnes personnes quand même aux États-Unis. Il y a j'ai oublié son nom, ce major qui a fait irruption, je crois que c'était hier, au Sénat américain. Un ancien de je ne sais trop quoi, quelle guerre, on a le choix, les Américains passent leur temps à faire des guerres.
Un vétéran.
Qui est un vétéran, c'est ça, il y avait des vétérans partout, il y avait son costume et qui a interrompu une séance d'une commission de la Chambre, mais ça c'était héroïque parce qu'il a même eu le bras cassé, du coup, et il savait qu'il s'exposait physiquement, donc c'était vraiment l'héroïsme en criant « je n'enverrai pas mes enfants mourir pour Israël ». Très significatif d'ailleurs ce raccourci. Alors il y a des gens bien quand même, mais la machine est infernale.
Je peux dire un mot?
Oui, François, j'allais vous demander votre réponse.
Je pense que ce que dit Paul-Marie est très important, et je pense que moi je n'ai pas d'opinion à dire sur les Américains en général, sur le fait qu'ils sont bien ou pas bien. Ce que je constate simplement, c'est que depuis le début de la guerre de Gaza, l'opinion américaine a totalement évolué dans un sens beaucoup plus favorable aux Palestiniens et beaucoup moins favorable à Israël. Jusqu'avant la guerre de Gaza, les Américains étaient globalement pro-israéliens pour 60% en gros de la population, et aujourd'hui les pro-palestiniens sont majoritaires par rapport aux pro-israéliens. Donc, il y a véritablement un changement de l'opinion très important, et j'en veux pour preuve le fait que Mamdani, qui est un musulman assumé, qui a créé des associations pro-palestiniennes pendant sa jeunesse, etc., et qui cite régulièrement le Coran dans ses discours, a été élu par 35 ou 40% de la population juive de New York, parce qu'ils sont devenus anti-sionistes.
Tu veux dire les que dans ce pays sauvage, heureusement qu'il y a des musulmans pour montrer l'exemple, c'est ça ce que tu veux dire? C'est un musulman qui montre l'exemple. Bah, ce que tu veux dire, c'est que c'est un musulman qui montre l'exemple de la droiture.
Un musulman de gauche.
Ce que je veux dire surtout, c'est que les juifs américains en ont de plus en plus marre de Netanyahou, du Likoud et de sa politique. Et ça, c'est quelque chose dont tous les présidents américains, aujourd'hui et futurs, vont devoir obligatoirement tenir compte.
Surtout que Trump s'est contredit lui-même. Enfin, il a dit qu'il ne ferait jamais la guerre ailleurs.
Non,
et il engage une guerre démentielle dont on ne voit pas ce qui peut la faire se terminer. Sinon,
c'est
peut-être
totalement nouveau, ça, père. C'est totalement nouveau. Le fait que le sentiment pro-palestinien, surtout chez les jeunes, soit majoritaire, ça veut dire, j'avais lu ça quelque part et je trouvais ça très intelligent, que toute la jeune génération, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui pro-palestiniens, vont percoler ensuite dans les entreprises et dans l'administration, c'est-à-dire que le soutien américain d'Israël, le grand frère américain, ça va disparaître avec le temps. C'est un mouvement qui est équivalent à celui de la guerre du Vietnam, si vous voulez, de la position, je crois tout à fait. Alors, il n'en reste pas moins que l'AIPAC reste très puissant, les grandes banques juives restent très puissantes, etc., etc. Mais il y a véritablement un changement, et ça, c'est Netanyahou qui a consciencieusement détruit ce que j'appelle son crédit victimaire. Israël a été construit jusqu'à présent depuis la guerre par ce que j'appelle son crédit victimaire, qui lui a permis de faire tout ce qu'ils ont fait depuis la Nakba, etc. Et on disait oui, mais c'est Israël, donc il faut leur pardonner parce que, etc. Et aujourd'hui, ce crédit victimaire a été détruit par Netanyahou. Et l'un des derniers pays où on veut conserver envers et contre tout ce qu'on voit, le crédit victimaire à la droite israélienne, c'est la France, malheureusement. Alors que beaucoup de pays ont
et le Front National, depuis un moment. Le Front National devenu le premier parti israélien de France, d'Europe. Alors, je voudrais quand même te rappeler, François, qu'en 2015, un traité avait été trouvé et signé avec Téhéran et plusieurs puissances occidentales. Je ne sais pas combien de parties étaient...
Ça s'appelle le JCPOA, ça s'appelle.
En 2015. Et qui est arrivé et qui a arrivé une position assez équilibrée et que Trump a révoqué en 2017. Alors, oui, ça... C'est déjà, oui, à l'époque, on pouvait savoir qu'il avait un petit déséquilibre dans le crâne. Hein. Mais il faut connaître la vie de ce personnage pour comprendre qu'il était tout aussi déséquilibré que Macron, en fait.
Et toute sa famille est sioniste, en plus.
Ah bah oui.
Avec conversion à la clé.
Mais les évangélistes sont sionistes, parce que c'est la parabole de la Bible. C'est en Terre Sainte que reviendra le Christ.
Ce qui nous différencie un peu... Ce n'est pas tellement l'image que nous avons de Trump, mais je dirais que la façon dont nous regardons la politique internationale entre Paul-Marie et moi. Moi, je me refuse, vous m'entendez, père ?
Oui, on vous entend très bien.
Je me refuse à dire Trump est gentil, Trump est méchant, Trump est bien, Trump n'est pas bien. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je rappelle qu'on a traité avec Staline, je répète qu'on a traité avec Mao Tse-tung, qui nous a laissé quand même 80 millions de morts. On n'a pas eu de mal à traiter avec ces gens-là. Donc, ce qui est important, je pense, et c'est là, je pense qu'il y a une petite divergence entre Paul-Marie et moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait. Mitterrand disait « peu importe que les communistes… » soit sincère du moment qu'il se comporte comme s'il l'était.
François, voilà. Trump était élu.
Je voudrais terminer ma phrase. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'appuyer l'action de Trump lorsqu'elle va dans le bon sens et de la rejeter lorsqu'elle va dans le mauvais sens. Et pour moi, ce que fait Trump, globalement parlant, en dehors de ce qu'il fait en Iran, qui est une énorme connerie, et je l'avais dit depuis longtemps, ce qu'il fait aujourd'hui en essayant de dynamiter l'Europe de Bruxelles, ce qu'il fait en essayant de rapprocher, et il va y arriver, la Russie et les États-Unis aujourd'hui, ça, je suis désolé, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors François, je ne pense pas que notre divergence soit là, parce que je me souviens qu'après l'élection de Trump, que je regardais déjà d'un mauvais œil, en novembre 2024, tu disais « tout va changer ». Donc c'est bien que tu pensais qu'un homme d'État faisait beaucoup et que beaucoup de ce qui se passe dans sa tête aurait une importance dans les affaires du monde, puisque tu disais « Trump a été élu, tout va changer bon. ».
Mais finalement, tout a changé.
Pas tellement, je trouve que la politique...
La politique, l'attaque de l'Iran nous fait rentrer dans un autre monde. Quand
mais
même.
Non,
c'est Epstein.
Attendez, moi aussi, je voudrais finir une phrase. c'est comme l'affaire de Syrie menée par Obama, comme l'affaire d'Irak menée par Bush. Les néoconservateurs, ce que j'appelle d'ailleurs, parce que j'aime pas les appeler néoconservateurs, d'autant que la plupart sont des démocrates d'ailleurs. Mais donc, je tiens assez au mot conservateur pour ma part. Appelons ça les faucons, la politique des faucons, qui est une sorte d'emballement de l'empire peut-être qui s'approche du stade final, est la même depuis 40 ans, et Trump ne fait que la poursuivre. Les faucons...
Non, je ne partage pas du tout ça.
On continue.
Alors, on continue après la pause.
Je ne sais pas ce qu'il te faut, parce que l'affaire d'Iran est quand même assez signée quand même dans la perpétuation de la politique des faucons.
Vous préparez chacun votre position, et après la pause, on fait le vrai face-à-face.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Thank you. parti pour cette deuxième vague de questions à propos de ce qui se passe en Iran, du projet israélien, de la manière dont Israël sert de bras armé à M. Trump. Il y a beaucoup de messages d'auditeurs que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que je lirai volontiers à l'antenne. Et puis on pourrait ensuite essayer de conclure sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça va faire tout ça ?
Sur l'Occident, j'aimerais conclure sur l'Occident.
Il me semble que les États-Unis sont en train de perdre leur aura morale héritée de 1945.
Et c'est l'Occident tout entier qui chavire.
Ça fait très longtemps que les États-Unis ont perdu leur aura, hein. Dans mon livre précédent qui s'appelait qui étudiait précisément le caractère décolonial du monde, qui s'appelait Le temps des fractures, j'expliquais que au moment où les États-Unis ont obtenu grâce à Reagan, je dirais l'hégémonie sur le monde, c'est le moment où ils ont assassiné l'Irak sous un faux prétexte et qu'ils ont été à ce moment-là, aux yeux du monde entier, des gens qui se prétendaient des moines soldats, je vais dire ça comme ça, avec une doctrine dont le mantra était la bénévolente globale hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisante, c'est-à-dire on vous bombarde, on vous tue et c'est pour votre bien. Mais au moment où les Américains ont fait ça, en même temps, ils se sont jetés sur l'Irak, qu'ils ont dépecé. Je pense que les Américains ont perdu leur aura à ce moment-là et ils n'ont cessé de le perdre, perdre depuis lors. C'est pas récent, mais Trump en a effectivement rajouté une couche avec cette guerre dans laquelle, à mon avis, il va prendre une pâtée dans les jours qui viennent. Voilà, c'est ça que je pense.
Qu'est-ce que vous en dites,
oui,
Marie ?
Oui, je vais être encore plus, là, cette fois, rapide. Les États-Unis ont pour moi perdu leur aura à partir du moment où ils ont envahi la France, ils l'ont occupée, et pour reprendre le mot du général de Gaulle, ils l'ont colonisée. Ça me suffit à savoir ce qu'il faut penser.
C'est au fond une nouvelle forme de colonisation qui
est dramatique.
Évidemment,
mais on l'a subi depuis 1945, hein. Quand de Gaulle, c'est François qui a trouvé cette citation, parce que vous savez, on communique beaucoup, François et moi, depuis des années. 3 avril 63, François, quand de Gaulle dit, voilà, on a décolonisé l'Algérie, l'Afrique, maintenant nous allons décoloniser la France. Il visait les États-Unis. Ce pays colonise la France, en particulier les cervelles françaises. Il l'a occupée, et d'ailleurs de Gaulle disait, je n'irai pas commémorer, en 64 il dit ça à Perfit, il l'a dit aussi à Pompidou, il ne faut pas commémorer, Pompidou avait envie d'y aller, le débarquement de 44, qui était le prélude à une nouvelle occupation du pays. Donc pour moi,
surtout
les États-Unis...
Le débarquement, c'est en Provence d'abord.
Mais les États-Unis occupent mon pays, ils le détruisent spirituellement, d'abord spirituellement, culturellement, et ça me suffit à les qualifier.
Et donc, je rajouterai deux choses à ce que dit Paul Barry, c'est que le plan américain pour la France s'appelait l'AMGOT, et je rappelle que OT, ça veut dire Occupied Territories. Donc la France n'est pas un pays libéré, mais un pays occupé. Voilà. Et le deuxième, c'est assez amusant d'ailleurs, c'est que dans la citation que cite Paul Barry, le général de Gaulle continue en disant « Nous allons décoloniser nous-mêmes ». Mais le problème dans ce genre de situation, c'est qu'en général, les colonisés n'ont pas envie d'être décolonisés.
Allez dire ça à Bardella et Marion Maréchal.
Nous y sommes encore.
Ah oui. Les esprits faibles ne veulent pas être décolonisés. Ils sont imbibés d'Amérique. Ils n'ont aucune autre culture.
C'est ça.
Je vous propose de vous lire les messages d'auditeurs et vous m'arrêtez dès que vous le jugez intéressant. Le général commandant suprême des forces spéciales des gardiens de la Révolution, El Qods, a été arrêté par le contre-espionnage iranien après avoir échappé pour la troisième fois aux bombardements qui ont liquidé les responsables du Hezbollah, puis à celui de Khamenei. Cela prouve, s'il le fallait, la profondeur de l'infiltration du Mossad dans le haut appareil iranien et que la surprise du 7 octobre est plus que douteuse. Tout cela pour éviter la prison au pourri, on va dire ça comme ça.
Oui, il y a quelque chose d'intéressant à dire à ce sujet, père. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense quand on dit « regardez, c'est un... on a tout fait pour diaboliser ce régime iranien en disant que c'est un régime absolument totalitaire, horrible, etc. etc. » Simplement parce qu'on ne comprend pas l'islam chiite et qu'on ne comprend pas la Perse. Je rappelle que ce pays est le pays au monde qui fournit le plus d'ingénieurs. Alors, on peut bien penser que si c'était un pays totalitaire absolu, qui ne permet rien, aucune liberté, etc., etc., il ne fournirait pas des ingénieurs par centaines et par milliers.
En même temps, à peu près autant que l'Inde.
Ce pays islamique totalitaire existe, mais il est en face. Il s'appelle l'Arabie Saoudite, où je suis allé pas mal de fois. Je peux vous dire que les libertés, on décapite les femmes en place publique en Arabie Saoudite. Hein. Donc, il ne faut quand même pas mélanger les choses. En Iran, c'est une société très complexe. Ce n'est pas vrai du tout que les femmes portent obligatoirement le voile, etc., etc. C'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus souple que ça. Les Iraniens sont des gens extrêmement cultivés. Le guide suprême était très aimé globalement dans la population. En fait, on a tué le pape.
On me dit que la notion de guide suprême est intervenue tardivement, en 1988, quand ils ont repris le pouvoir.
En 80, ils ont repris le pouvoir.
Et qu'en fait, il n'y avait pas de guide suprême avant.
Ben non, parce que c'est l'arrivée des ayatollahs.
Khomeini était quand même un guide suprême, hein, même s'il n'en avait peut-être pas le titre.
Mais c'est très bien, François, ce que tu dis, parce que j'en ai assez depuis des jours et des jours, depuis des mois, ça dure depuis des années même, entendre le traitement infligé à l'Iran, l'une des plus grandes civilisations du monde, et qui n'est pas secondaire, ne serait-ce que par son poids démographique, 80 millions de personnes, alors que, pratiquement réduit à l'état de barbarie, alors que les barbares, ça se voit depuis plusieurs jours, c'est nous. Voilà, je voudrais tirer des conséquences de cette barbarie occidentale. Vraiment, je ne voudrais pas partir de ce studio sans dire deux ou trois choses là-dessus.
Mais vous pouvez le dire. Hein.
Oui.
Vous savez, le micro est ouvert.
On parlait du général de Gaulle, je vais continuer, ça agace peut-être beaucoup de gens. La radio courtoisie, peu importe. De Gaulle dit à deux reprises, c'est drôle, vers 1950, à son aide de camp Claude Guy, qui le rapporte, l'homme moderne est un désespéré. Et il le redit à André Malraux en décembre 69, lors de la dernière visite que Malraux fait à Colombey-les-Deux-Églises, il en tire un livre, Le chêne qu'on abat. Il dit, j'ai essayé de m'opposer à la fin d'un monde, je n'ai pas de prise sur la civilisation occidentale. Meurt sous nos yeux, nous n'y pouvons rien, nous n'avons qu'à regarder. Et ça, c'est une touche de désespoir dont nous mesurons l'intensité aujourd'hui. L'homme moderne est un désespéré, il est d'autant plus désespéré que la déchristianisation violente de ce qui s'est appelé l'Occident, bien nommé, l'Occident c'est ce qui tombe, c'est ce qui meurt. Bon. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qui ressurgira sur les ruines de l'Occident et que j'appelle la chrétienté, et pour en rester d'ailleurs, dans cette parenthèse, pour en rester au conflit iranien, il est très intéressant qu'après le pape, qui était très net dimanche contre la guerre au Vatican, ce soit l'Espagne, pays catholique s'il en est, n'est-ce pas mon cher François, qui montre la voie de l'indépendance, qui devrait être celle de toute l'Europe, en tous les cas de la France. Il y a une espèce d'opposition profonde, et tu l'as écrit François, là-dessus on se retrouvera sans fin, de la latinité, et du monde catholique, tu es aussi grand chrétien, même plus que moi, cette chrétienté-là, elle doit s'opposer à l'Occident, qui la bafoue et qui la ruine, au point de ruiner les esprits et de désespérer les âmes. Voilà. Et on en a des exemples partout de cet ensauvagement de l'Occident.
Bien sûr.
Et c'est peut-être, là, d'accord, on est d'accord, François, c'est peut-être la leçon à tirer de cette conjoncture. Il faut que nous sortions de l'Occident. Il faut que nous retrouvions une voie chrétienne. Peut-être, pour moi, le monde protestant ne l'est plus. Il est utilitariste, il est totalitaire d'ailleurs, beaucoup plus qu'on le voit. Mais il faut y inclure d'ailleurs les orthodoxes, le monde orthodoxe, qui est un monde chrétien.
Bien sûr.
Bon, et alors là, il y a des axes pour l'avenir. Ne soyons pas désespérés. Travaillons avec Moscou, travaillons avec nos alliés roumains, pays créés par la France, serbes. Travaillons avec les pays d'Amérique latine, travaillons avec les pays catholiques, qui sont une voie de modération dans un monde qui a perdu toute modération. Et cette perspective géopolitique, elle est pleine d'espoir pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous désespérés. Et Quentin en a fait les frais de ce désespoir, et de cette absence de limites, et de cette violence, et de cette sauvagerie.
Que effectivement, une des choses qui me sidère avec l'Europe, qui me confirme que l'Europe, en fait, n'est pas une entité politique, mais uniquement, je dirais, un pacte de Varsovie à l'envers, gouverné par les États-Unis, c'est que nous n'avons même pas eu, au sein de l'Europe, un combat culturel sur ses origines.
C'est vrai.
Nous n'avons pas réussi à imposer la latinité au sein de l'Europe, et même pas à la faire exister, et même pas à ni aviver ses racines, ce qui était la phrase de Jean-Paul II par rapport à l'Europe, avivez vos racines, il nous avait dit ça. Et nous ne sommes même pas capables d'aviver vos racines. Et la meilleure preuve de ça, c'est que les pays anglo-saxons appellent l'Europe les pigs, c'est-à-dire c'est Portugal, Italie, Spain, Greece. C'est-à-dire que l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce sont les cochons de l'Europe. Voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on.
Il y a une fracture. L'Europe est construite sur une fracture absolument impossible à résoudre. Et d'ailleurs, l'affaire des évêques allemands qui jettent par-dessus bord la croix en mettant à la place, vous savez, un petit cœur comme ce qu'on met sur les pâtisseries à Noël ou à la Saint-Valentin, enfin, c'est des trucs de puérilité dingue, prouve bien que jamais la catholicité n'a vraiment mordu, ça c'est le drame de Teutonbourg, en Allemagne. Voilà.
Bien sûr.
L'Allemagne a été christianisée par le fer et par le feu, a fichu les Romains à la porte pour son malheur et pour notre malheur, et c'est un autre monde. Et on a construit l'Europe, François l'a dit très clairement, sur ce hiatus-là. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a une fracture.
Le Saint-Empire romain est germanique de façon nécessaire, et c'est ce qu'on voit avec l'Europe. C'est ce qu'on voit avec les nouveaux chanceliers.
C'est pas le Saint-Empire.
Même pour parler de nos origines.
Non, mais le Saint-Empire n'est pas si saint puisqu'il est germanique.
Mais le Saint-Empire n'est pas la catholicité, justement. C'est pour ça que le roi de France y est opposé tout au long des siècles qui ont fait la France. Il s'est opposé justement contre le Saint-Empire germanique. C'était toute la gloire des Capétiens d'y être arrivé.
Oui.
Comme il s'est opposé à l'Empire anglais, d'ailleurs.
J'ai eu une occasion à une époque d'aller en Crète et de découvrir le musée archéologique d'Héraclion. Et j'ai découvert ce que c'était que cette civilisation minoenne absolument extraordinaire qui a 6000 ans et qui est véritablement l'une des racines de l'Europe, si on veut en chercher. Est-ce que vous avez jamais entendu quoi que ce soit pour valoriser la civilisation minoenne à l'intérieur de notre discours européen?
Jamais rien.
Jamais. Jamais.
Non. Excellent.
On vous valorise la civilisation égyptienne parce que les pyramides égyptiennes, ça fait penser à la franc-maçonnerie, il faut dire la vérité. Mais c'est tout. C'est épouvantable. Nous n'avons jamais eu un discours culturel.
Et on ne parle ni grec, ni latin, ni italien. On parle américain. On parle américain. Déjà, rien que la langue dise notre soumission de latin à une culture étrangère et dominatrice.
Oui, ça, c'est très clair. Mais je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on apprend du comportement guerrier des États-Unis et d'Israël, se paiera nécessairement.
Et de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.
Bien sûr. Père, vous voulez qu'on lise quelques messages là pour répondre?
Et voilà, il faut aussi évoquer les deux missiles tirés contre une école primaire de filles. Deux missiles.
Bien sûr.
C'est une erreur, deux missiles. C'est curieux quand même. On refait l'erreur.
Quelle erreur, père? C'est pas une erreur.
Non,
c'est
mais justement.
Sidération.
Je suis ironique.
Les femmes et les enfants.
Oui.
C'est ce qu'ont dit les dirigeants israéliens à propos de Gaza.
Ça s'appelle la barbarie.
Je suis ironique et je pense que notre auditeur l'est quand il dit les deux missiles. en mettant deux en capitale.
François a raison, ça s'appelle la barbarie.
Non, mais quand on dit c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui on nous dit c'est une erreur, cette école de filles, ça aurait pas dû.
C'est pas une erreur, c'est ce que vous dit François. Oui, parce qu'il y a deux missiles, oui, en effet.
Voilà.
Parce qu'il faut tuer les femmes et les enfants.
C'est un projet satanique, père. C'est un projet satanique. C'est ça. Quand on tue d'abord les femmes et les enfants, ça veut dire imposer la violence la plus brutale.
176 morts.
C'est satanique. Voilà.
L'école recevait des enfants du personnel de la base de la marine iranienne. C'était donc un objectif digne de la Bible, vu le contenu du livre.
Voilà. Je crois que vous avez un message, mon père, qui fait référence à Jean-Marie Le Pen, dont nous parlons tout à l'heure, non ?
Alors, si vous voulez. Rubio a affirmé que ce n'étaient pas les Américains, et on peut le croire quand il dit que ce n'est pas chrétien. Ah, c'est subtil. Et Rubio est catholique, lui. Enfin, il est catholique.
Rubio est un catholique, mais c'est un ancien mormon.
Ah.
Donc il a une conception de la catholicité qui est assez, qui est assez forte, je dirais. Pas dans le mauvais sens du terme, forcément. Hein.
Platon, la vérité d'une chose est dans ses commencements. Donc, de tout être. Quand on a commencé catholique, on le reste jusqu'au bout. Quand on a commencé mormon, protestant ou barbare, on le reste jusqu'au bout.
Alors, Jean-Marie Le Pen affirmait sur Radio Courtoisie que l'Iran avait le droit à la sécurité en possédant l'arme nucléaire et qu'il croyait que l'atome rend sage.
Oui, c'est ce sur quoi est fondée la dissuasion française, la doctrine française de dissuasion. L'arme nucléaire est censée apaiser les conflits. Si chacun a le droit sur la gâchette, personne ne tirera. C'est le pari.
Les Israéliens ont bombardé les territoires iraniens en tuant les hauts dignitaires alors que ces derniers avaient baissé la garde pensant négocier avec Trump. Ne trouvez-vous pas cela lâche ? Une attitude très caractéristique du pouvoir israélien de trahir les populations comme la population de l'Arménie. Je rappelle qu'Israël a armé en drones et donné des informations aux Azerbaïdjanais pour éliminer les Arméniens du Haut-Karabagh. Dans le but de recruter.
C'est pas lâche, père, encore une fois. On ne peut pas utiliser le terme de lâcheté. C'est une conception absolument barbare des relations entre les hommes. On a la conscience qu'en face de soi, on a des sous-hommes que l'on peut détruire à sa convenance. Voilà. C'est ça la réalité. On n'est pas dans la barbarie.
Bravo.
On n'est pas dans la lâcheté.
Je vois que les auditeurs vous font réfléchir et ça mitraille bien.
Oui.
Ça me plaît. Les revirements et les grandes déclarations de Trump s'expliquent-elles autrement que par la triade pathologique des hommes de pouvoir contemporain, un narcissisme qui leur fait prendre les autres pour des imbéciles, un machiavélisme sans borne morale, ça c'est pour Paul-Marie Couteau.
Eh oui, je pense que la question
une absence totale d'empathie psychopathique.
La question est plus morale que géopolitique, en fait.
Alors, est-ce qu'il y a de morale en politique ?
Ah, oui, est-ce qu'on
a l'habitude de dire...
Mon père, est-ce qu'il, vous parlez un monarchiste.
Je suis l'avocat du diable dans cette émission.
Oui, je vois bien, faites très attention, parce que quand même, il y a des bornes à votre mission d'avocat, mon père. Pendant des siècles et des siècles, au Moyen-Âge, on instruisait les princes. On appelait ça le miroir des princes, pour qu'ils se comportent conformément à la morale. Et c'est ce qui manque. Et c'est, encore une fois, la civilisation chrétienne, la civilisation des pays chrétiens qui ont instauré cette idée, et à laquelle je crois, c'est que le comportement moral d'un prince ou d'un chef d'État aujourd'hui détermine en grande partie le comportement de la population. Et c'est ça qui est grave par-dessus tout dans l'affaire présente.
C'est l'exemple.
Aussi bien pour Macron que pour tout autre personnage cynique, c'est l'installation du cynisme comme règle de la vie entre les hommes. Parce que justement, on a oublié la morale et parce que les princes ont oublié leur mission d'exemple, qu'on peut attendre d'un prince quand même.
Et j'ajouterais, si on a oublié la morale, c'est parce que la morale est chrétienne ou elle n'est pas.
Et, voilà.
Et finalement, on a voulu oublier le christianisme et on a perdu la morale avec, ce qui fait qu'on se retrouve... à poil.
On a, c'est pas la mort de Dieu, comme disait Nietzsche, en l'air. On a voulu tuer Dieu pour... pour l'utilitarisme, pour la matière, pour le règne du commerce et pour le règne de la domination des hommes ad libitum, au service de la machine en plus. On ne sait pas s'il est la machine au service des hommes ou pas. Mais il y a quelque chose d'infernal, je crois que le mot a été prononcé tout à l'heure par François, il y a quelque chose d'infernal dans l'enchaînement des événements auxquels on assiste depuis quelques années. Le déchaînement, ça s'accélère.
Et l'Iran sur la morale en géopolitique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Alors moi, je pourrais rajouter quelque chose, c'est que j'essaye dans la mesure du possible de me dire, quoi qu'on fasse, on est obligé de faire avec les hommes et avec les circonstances qu'on a autour de soi. Donc, est-ce que De Gaulle était moral lorsqu'il traitait avec Staline ? Staline a gagné la Deuxième Guerre mondiale pour nous et Staline nous a donné notre poste au Conseil de sécurité. Donc pour moi, De Gaulle avait raison. Pourtant, Staline était une des pires crapules que la Terre ait portée. Donc je mettrais un petit bémol à... Je dirais qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dans un système où on dise on a les mains propres, mais on n'a pas de mains.
Évidemment,
Le propre des personnes en politique, c'est d'essayer de faire sortir le bien, je dirais, à travers le... Je vais dire un mot, à travers la merde qu'on a autour de soi. C'est très facile, mais c'est ça notre rôle. Et j'essaye de tenir à ça dans mes analyses. Voilà, c'est ça que je dirais.
Il faut composer avec le mal, mais il ne faut pas accepter le cynisme. Voilà, ça, c'est la vie de tous les hommes, ça. Et y compris,
alors,
d'abord...
Mais il faut reconnaître le cynisme.
Il ne fallait pas accepter de négocier avec Staline.
Bien entendu qu'il fallait le faire. Il faut faire sa part au mal, mais il ne faut pas... Le voyage que fait le général.
C'était une ordure absolue.
Le voyage que le général de Gaulle fait à Moscou en 44 et celui qu'il refera beaucoup plus longuement en juin 66, ça ne relève pas du cynisme. Ça relève de l'art politique qui, en effet, ne se colle pas entièrement, ne se juxtapose pas entièrement avec une morale comme on disait au Moyen Âge.
On est d'accord.
Le roi dort près du livre. Ça ne veut pas dire qu'il incarne le livre. Et les rois de France n'avaient pas de mission sacerdotale, à la différence des empereurs germaniques, d'ailleurs. C'est très intéressant. Raison pour laquelle les rois ne voulaient pas rencontrer les empereurs, parce que si on disait des messes, comme on disait des messes tous les jours, l'empereur avait une mission sacerdotale et le roi de France n'était plus qu'un assistant ou un diacre. Bref, il n'y a pas conjonction entre la morale et l'action politique. Le roi dort près du livre, mais il ne doit pas y avoir dissociation non plus. C'est ça le miroir des princes. Et ça suppose de ne pas accepter le cynisme. Il faut faire la part des choses.
On est d'accord. Mais on doit faire avec.
On doit faire avec.
Voilà.
Alors, on aborde l'affaire Epstein. L'attaque de l'Iran, que certains appellent Opération Epstein, est totalement dans le style de la CIA, comme l'enlèvement de Maduro. Il faut lire Histoire de la CIA de Tim Wiener, paru en 2012 pour
excellent
comprendre.
Excellent livre.
Mais si Trump a cru mettre la main dans le pot de miel, ce qui est certain, c'est que chez Epstein, c'est la paluche dans la culotte de la gamine qui a été prise. Bien sûr, il est évident que Epstein travaillait pour le KGB, c'est totalement logique, comme nos journaleux nous l'apprennent.
Pour le Mossad, peut-être.
Pour le KGB, non, mais qu'est-ce qui est écrit ?
Pour le Mossad, KGB,
il gagnait sa vie. Il gagnait sa vie en mettant... en relation des gens qui...
Je ne crois pas qu'il y ait le moindre lien entre Epstein et le
KGB. Il n'y a aucun lien avec la Russie.
Non, non. Oui, alors je sais qu'il y a une espèce de bruit qui a tenté de faire circuler une petite camarilla pro-ukrainienne pour accabler Poutine, encore une fois, consistant à dire que Epstein était... Epstein, on ne sait plus comment dire... était manipulé par Poutine, il faut dire Poutine d'ailleurs, on ne sait plus finalement, par Poutine. Non, mais tout ça, c'est des inventions, il n'y a aucun lien entre Epstein et Poutine.
Bon, et aucun lien entre Epstein et l'Iran. Et ce qui
Bien
se passe
sûr
en
que
Iran.
Si. Là, il y en a possiblement. Si vous cherchez tous ceux que l'affaire Epstein a pu déstabiliser, que ce soit certains des grands soutiens de Trump, ou Trump lui-même d'ailleurs, ce que je ne pense pas pour ma part, de la part de Trump, parce que sinon, on l'aurait déjà trouvé s'il était... Je rappelle qu'il y a eu deux procès, le procès de d'Epstein et le procès de Ghislaine Maxwell. Et si tout ce qui est sorti sort aujourd'hui au grand public, tout ce que vous voyez est déjà connu des juges. Ça sort uniquement au grand public, ça n'est pas dévoilé aujourd'hui.
Oui.
C'est dévoilé urbi et orbi, mais les juges, s'ils avaient trouvé, à une époque où Trump essayait de revenir, quoi que ce soit de véritablement croustillant pour Trump, vous inquiétez pas que ça serait sorti. Donc moi, ça me laisse à penser que Trump n'est pas aussi mouillé que ce que certains voudraient dire. Par contre, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent avoir envie d'une bonne guerre avec l'Iran qui termine éventuellement, et on va terminer, on va peut-être parler un peu des conséquences, avec une bonne bombe atomique sur l'Iran, je pense que ça arrangerait un certain nombre de gens parce qu'on ne parlerait plus d'Epstein pendant 3 ou 6 mois, vous voyez. Donc il peut y avoir un lien entre les deux dans le sens où l'Iran peut être conçu comme une opération de détournement de l'affaire Epstein, qui est quand même une affaire gigantesque et qui mouille toute la classe politique américaine et toute la classe financière américaine et toute la classe médiatique américaine.
Norvégienne, britannique, justement, les pays latins sont assez à l'écart, mis à part la France.
Et la France, bien entendu, qui est le deuxième pays d'Epstein, dont personne ne parle, où il y a une omerta absolue, mais je suis persuadé que si on regarde les dossiers que nous avions en main depuis 2019, puisque quand Epstein a été arrêté, on a perquisitionné son domicile de l'avenue Foch, et on a donc tous les documents que vous voyez sortir, la justice française les a depuis 2019 et n'en a rien fait. C'est quand même énorme.
Il paraît d'ailleurs, mais ça c'est à prendre avec des pincettes, que plusieurs des policiers qui ont vidé l'appartement d'Epstein en 2019 sont morts depuis.
Ah.
Mais c'est une information, oui. J'ai vu ça. Faut faire attention, hein. Je n'ai pas du tout la confirmation de ça.
Oui, enfin, oui.
Epstein lui-même est mort.
Donc il peut y avoir un lien pour répondre à la question de l'auditeur. Il se peut qu'il y ait un lien, c'est possible.
Ben, le grand lien, c'est l'ensauvagement du monde, de toute façon. C'est cette espèce de pourriture. Et cette espèce de culture de mort, là aussi, c'est un aspect, vous savez, dans les années 70, tout se mêle. Je pense à parce que je travaille là-dessus en ce moment, la dénatalité française. La dénatalité française et européenne, elle est un aspect de cette culture de mort dont parlait le grand Jean-Paul II. On a affaire à toute une classe qui est tellement privée de sa morale, classe politique, et même tellement plongée dans le cynisme qu'elle n'aime plus la vie en réalité, parce que c'est la destruction de la vie, le cynisme. Et que cette espèce de déréliction consonne parfaitement avec la dénatalité, avec tout ce qui s'est passé dans les années 70, et cette espèce d'égarement dans lequel on vit. Et ça a un lien avec l'Iran, parce que toutes bandes sont franchies, là, y compris avec la raison. François le disait tout à l'heure, Trump a attaqué finalement sans raison, il ne sait pas très bien maintenant ce qu'il va faire. Mais on se déchaîne, on abandonne toute règle morale, et c'était déjà, cet holocauste-là était déjà inclus dans un espèce de mépris pour la vie qui a été très marquant dans les années 70, mépris pour les enfants, c'est toutes les affaires de pédophilie, parce qu'elles ont été antérieures à Epstein aussi. Hein. Et il y avait aussi des accusations de pédophilie contre Roy Cohn, c'est la pédophilie masculine, parce qu'il était homosexuel, qui était l'un des maîtres à penser de Trump. Hein. Il faut savoir qu'il y a Roy Cohn aussi, c'est un pré-Epstein, mais qui lui était le maître à penser. Et c'est dans les mêmes années où on glorifiait la pédophilie en France. Ça, c'est la culture de mort. Hein, quand on disait, ben, on nie les enfants au point qu'on s'autorise à avoir des relations sexuelles avec eux. Ça, c'est la négation de l'enfant. Et c'est dans les mêmes années, il faut faire le rapprochement, qu'est arrivée la loi Veil, qui est allée jusqu'à nier les enfants, qu'on les assassine dans le ventre de leur mère. Il y a 300 000 avortements, il y en avait avant, mais moins tout de même. Maintenant, cette espèce de culture de mort qui imprègne l'Occident le voue à sa perte. Et il faut penser, et je voudrais poser une question à François, parce qu'il ne m'a pas tout à fait répondu tout à l'heure, à cette lueur d'espoir qui est la politique espagnole. Je pense que tu es en Espagne, tu es un grand hispanisant, tu m'as dit ton affection à plusieurs reprises pour l'Espagne. Ça ne t'étonne pas, la position originale de l'Espagne aujourd'hui.
Oui, oui. Oui, non, je suis pas étonné du tout.
L'Espagne catholique,
enfin,
bien entendu.
Une politique courageuse. Bon,
alors, c'est pas l'Espagne catholique qui réagit.
Espagnols, ils sont pas blanc-bleu non plus, voilà, sur tous les plans, mais il faut reconnaître que sur ce plan, ils sont courageux, oui, c'est vrai.
Ça fait longtemps d'ailleurs, parce que c'est pas les socialistes espagnols qui ont reconnu l'État palestinien les premiers en Europe.
Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose
Et je crois que l'Espagne a été le dernier pays à reconnaître Israël aussi, je crois. Comme le Vatican d'ailleurs, tout ça c'est pas un hasard, il y a une logique catholique. Qui a une influence sur la géopolitique. Israël a reconnu Israël. Le Vatican a reconnu Israël qu'en 1993, hein, quand même.
Il y a une logique catholique qui est marginalisée et qui fait qu'à la place, on a des logiques sectaires, des logiques ultra-protestantes, des logiques ultra-matérialistes, ultra-islamistes.
Violentes, sauvages, oui. C'est un très vieux combat, la catholicité. Mais je pense qu'on peut l'amener. Et cette lueur d'espoir qu'allume l'Espagne, qui a une position très équilibrée depuis longtemps, comme le Vatican d'ailleurs, je le disais.
Des logiques également, on va dire, théocratiques, qui sont celles du Grand Israël, il ne faut pas l'oublier non plus, qui est la folie du sionisme qui veut détruire tout son environnement. Hein,
Le Grand Israël qui, soi-disant, doit aller du Nil à l'Euphrate, c'est un rêve. Quand on connaît un peu l'histoire de l'Antiquité, le peuple israélien était un tout petit peuple coincé entre les Perses et les Égyptiens.
Voilà. Et il a eu besoin des Perses comme il a eu besoin des Babyloniens.
Et qui s'invente un grand Israël qui est un pur mythe.
Oui.
Je rappelle que quand Josué prépare les Israélites à rentrer dans la terre promise, après la mort de Moïse, il leur fait un discours et il leur dit « Est-ce que vous voulez accepter le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ou est-ce que vous voulez retourner à vos dieux anciens de Mésopotamie ?» Il leur dit. Donc, est-ce que vous voulez retourner à vos origines de Mésopotamie ? C'est pas moi qui le dis, c'est Josué. Donc, voilà. Donc, c'est pas du tout un peuple qui est, né en terre promise. Mm. C'est un peuple qui vient d'Ur en Chaldée. Mm. Ce sont des Chaldéens au départ.
C'est-à-dire un petit peuple, voilà, en réalité, qui est, à force de cynisme, qui est devenu démesuré, dont la puissance est devenue démesurée, en s'alliant à l'Empire
états-unien. Je pense qu'on est tous tristes de cette militarisation d'Israël. Enfin,
elle est inscrite dans l'histoire. Elle est inscrite dans l'histoire. C'est quand même le terrorisme qui a permis la fabrication d'Israël.
Est-ce que vous voulez qu'on dise quelques mots des conséquences ? On n'en a pas parlé. Je pense qu'on doit à nos lecteurs un peu de perspective.
Oui, j'avais proposé qu'on réfléchisse aux conséquences tout à l'heure, mais finalement...
Il reste 5 minutes. Hein, donc,
alors, commencez.
Alors, allons-y. Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je peux me tromper, hein, mais je pense que pour un certain nombre de raisons, le fait que l'alliance israélo-américaine n'a plus de munitions pratiquement pour ni offensive ni défensive, le prix du pétrole est en train de monter, il atteint les 90 dollars le baril, un certain nombre de raisons, le fait que Trump y est allé sans aucune justification et sans déclarer et sans prouver de menace imminente, tout ça fait que je pense qu'il va fiche le camp assez vite et peut-être même la semaine prochaine. Bon, c'est ça mon avis.
Oh mon Dieu. Je pense
que s'il reste et si jamais il se fait couler un bateau, il perd les élections de mi-mandat et ensuite... Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser une question par rapport à la suite de ça, de ce qui sera un échec américain. Je pense que si l'échec est prononcé et très tôt et que les Américains arrivent à masquer leur défaite en victoire comme Trump sait bien le faire en disant on leur a bien cassé la figure, maintenant ils vont rester tranquilles pour un moment, vive l'Amérique, etc. Il peut arriver quelque part à restaurer son image vis-à-vis de son mouvement MAGA, qui par ailleurs, sur le plan intérieur, je le rappelle, n'est pas si mauvaise, parce qu'il a fait une bonne politique, contrairement à ce qu'on a dit, en ce qui concerne l'arrêt de l'immigration. Il a fait une politique qui est assez correcte vis-à-vis de l'inflation. Il a fait une bonne politique par rapport à la réindustrialisation, etc. Donc, est-ce qu'il peut encore sauver son image par rapport au MAGA? Je pense qu'elle n'est pas foutue s'il s'arrête tout de suite. Par ailleurs, et je voulais, ça c'est une réflexion intéressante que j'ai entendue d'un grand ambassadeur américain en Israël que tu as peut-être connu, Paul Marie, qui s'appelait Chad Freeman, que tu as peut-être connu.
Non, je ne l'ai pas connu.
Et qui dit une chose tout à fait intéressante, il dit qu'il ne pense pas que dans ces conditions, ça sera le jeu des Russes et des Chinois de vouloir enfoncer les États-Unis parce qu'ils ne veulent pas un basculement du monde complet, ils ne veulent pas tuer la puissance américaine. Ce qu'ils veulent, c'est l'affaiblir, et ce qu'ils veulent, c'est une prévisibilité du monde pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir amener la paix, pour pouvoir un équilibre pour le monde westphalien dont on a parlé. Donc, je pense que l'affaire peut se terminer d'une façon peut-être moins absolue et moins grave,
moins tragique
que l'impression qu'elle donne aujourd'hui.
J'ai 2 minutes, il reste 3 minutes, j'en prends 2 pour te répondre. François, d'abord, ce n'est pas simplement des considérations géopolitiques qui déterminent l'avenir des États-Unis. C'est aussi la profonde décrépitude, pourriture de la société états-unienne, et notamment sur le plan de la santé, par exemple. Le corps américain est épuisé à force de bouffer des cochonneries. Ce peuple est en train, il ne se reproduit plus, il a besoin sans cesse de faire venir des étrangers, en même temps il ne les accepte plus. Bon, ce n'est pas sans analogie avec la France. Mais enfin, je crois que la décrépitude est encore plus profonde dans la société américaine. J'en ai 50 exemples à citer, je l'ai fait une fois lors d'une autre émission que nous faisons ensemble sur Omerta, on peut en parler, qui s'appelle « La France dans le chaos du monde ». Que dirige François, il m'invite assez souvent. Il se trouve que j'ai rencontré, en vivant à New York, 2 ans tout de même, un amas de cynisme dans le comportement des citoyens états-uniens, tel que je me suis dit, cette société ne peut pas tenir. Ça, c'est indépendant, si vous voulez, des équilibres géopolitiques qui ne peuvent pas tout. Sans parler des médicaments, des drogues, etc. Enfin, ce pays est en train de tomber dans la déliquescence. Mais justement, je voudrais parler de la France pour finir et dire, là j'espère que François en sera d'accord, que tout ça dessine pour la France une autre politique qui n'est pas une politique occidentaliste, mais une politique qui soit tournée vers les peuples du monde. C'est un peu le dernier livre. François a cité son avant-dernier livre, il faut lire aussi le dernier livre de François qui s'appelle « La France dans le chaos du monde », qui a quelques semaines d'ailleurs, et où l'on peut redessiner une autre politique étrangère pour la France, beaucoup plus tournée vers les peuples du monde, d'abord le monde chrétien, l'Amérique latine, la Russie, le monde latin, mais aussi l'ensemble des atouts que nous avons et qui sont au grand large, c'est-à-dire l'outre-mer, non seulement la mer, mais l'outre-mer, les territoires d'outre-mer, l'Afrique avec laquelle nous pouvons renouer sur certaines bases neuves, peut-être dans l'anti-impérialisme américain qui nous est commun à plusieurs pays africains et nous, par exemple autour de la francophonie, nous pouvons retrouver des liens qui sont des respirations naturelles pour la France, à condition de sortir de la gangue occidentaliste dans laquelle nous sommes engagés et nous ont engagés pas mal de farfelus de droite. Je ne comprends pas comment Bardella choisit ce moment pour dire que s'il est élu président de la République, ça j'en suis baba, son premier voyage sera pour Israël. Ça,
chacun va dire un mot pour terminer cette émission.
Je suis effrayé, ne serait-ce que pour l'état de la droite en France, enfin de ce qui passe pour la droite. Bon, enfin, ils ne veulent même pas être de droite, alors c'est pas ce qu'ils sont.
François ?
Je partage 100% ce que vient de dire Paul Marie. Voilà.
Vous faites des miracles, mon père.
je suis absolument certain que cette fracture du monde que j'ai décrite dans mon précédent livre soit grave ou le soit moins, c'est-à-dire que le monde de demain soit d'abord un monde de confrontation plutôt que de coopération. Dans les deux cas, la place de la France me paraîtra absolument essentielle.
Eh bien, merci de cette conclusion. Je suis obligé de vous couper. Mais je pense que l'intensité de nos réflexions.
Bonsoir, François, nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, pour l'avenir de la France. Bien.
Vous venez d'entendre le libre journal de Chrétien T, dirigé par l'abbé Guillaume de Tannouarn, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 5 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.